Podcast Unige.
Pour ce troisième épisode de Lifelong Learning at Unige, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec la professeure Aline Darbelay et le docteur Adrien Alberini, respectivement co-directrice et co-directeur du certificat de formation continue en droit de la finance numérique, le CAS, Digital Finance Law. Aline Darbelay est professeure assistante au Centre de droit bancaire et financier et au département de droit commercial de l'Université de Genève. Ses enseignements se situent dans les domaines du droit des marchés financiers, du droit bancaire et du droit commercial. Ses recherches portent principalement sur les questions liées au marché des capitaux, à la dette souveraine et au droit des technologies financières. Titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Zurich, d'un LLM en droit comparé de l'Université de San Diego, d'un master en droit de l'Université de Lausanne, elle est également admise au barreau de New York et a été Research Associate à l'Université de San Diego au bénéfice d'une bourse du Fonds National Suisse. Elle a également enseigné le droit commercial comparé à l'Université de Zurich et a été assistante de recherche dans le cadre du programme prioritaire de l'Université de Zurich Finance and Financial Markets. Adrien Alberini est docteur en droit, titulaire d'un LLM in Law, Science and Technology de l'Université de Stanford et avocat au barreau de Genève. Il exerce, publie et donne des conférences principalement en droit des affaires avec un accent sur les questions tant de droit public que de droit privé liées aux nouvelles technologies. Il est associé chez Sigma Legal à Genève, étude d'avocat dont il est également cofondateur. Au Centre de droit bancaire et financier de l'UNIGE, Adrien Alberini est donc co-directeur du CAS in Digital Finance Law et responsable du module 4 du CAS qui est consacré au droit de la propriété intellectuelle et au droit de la concurrence. Adrien Alberini est également chargé d'enseignement à la faculté de droit et intervient dans le cadre du cours de raisonnement et rédaction juridique. Cette conversation avec nos deux experts a été un plongeon dans le monde fascinant et tellement actuel des technologies financières ou FinTech. Nous avons également abordé l'enjeu clé de la protection des données, ainsi que les nouveaux métiers que nous voyons apparaître dans ces domaines et les nouvelles compétences qui en découlent.
Professeur Aline Darbelay, docteur Adrien Alberini, bienvenue sur le podcast Lifelong Learning at Uni.
Merci de nous recevoir.
Professeur Darbelay, la numérisation du secteur bancaire et de la finance pose toute une série de questions juridiques nouvelles. Le besoin de réguler semble de plus en plus urgent. On a beaucoup entendu parler de crypto-monnaie, de blockchain, de banques entièrement en ligne. Que s'est-il passé ces dernières années? Peut-on parler d'une accélération et d'une croissance exponentielle des technologies financières communément appelées FinTech?
Donc effectivement, en matière d'innovation technologique, en matière financière, j'aimerais d'abord souligner le fait qu'on n'assiste pas à un phénomène qui est tout à fait nouveau. Ça remonte en tout cas depuis les années 1970 et la numérisation s'est accentuée depuis les années peut-être 90. Donc, depuis maintenant quelques années, peut-être que l'évolution de la technologie devient exponentielle. C'est vrai qu'on a assisté à l'arrivée d'Internet. On a depuis un peu plus de 10 ans la blockchain, qui est une technologie qui est assez disruptive. Et là, peut-être que ça devient exponentiel. On parle de numérisation. J'aime bien parler de digitalisation, donc d'une véritable transformation digitale, même si je sais que ce terme n'est pas vraiment reconnu par l'Académie française, mais une véritable transformation digitale où on assiste vraiment à des modèles d'affaires qui deviennent disruptifs. C'est plus que simplement la conversion d'informations en données numériques. Et la question maintenant qui se pose avec une tendance à pousser la désintermédiation un peu plus loin avec les FinTech, c'est est-ce qu'on va aller vers un modèle qui décentralise encore plus et qui permet de se passer des intermédiaires financiers traditionnels. Et c'est là que des questions juridiques se posent. Il faut faire attention, donc le besoin de réguler, c'est si on a notamment affaire à une utilisation de la technologie qui sert à contourner des réglementations financières contraignantes. Mais néanmoins, à ce stade, on a quand même l'impression que les fintechs, finalement, finissent par consentir à collaborer plutôt avec les banques, le secteur financier de manière générale, plutôt que les remplacer. Et dans ce cadre, on a de nouvelles questions juridiques qui se posent, puisque d'une fois qu'on a des collaborations, ou bien de l'outsourcing, par exemple, à des sous-traitants informatiques, on a de nouvelles relations contractuelles qui se créent, de nouvelles questions juridiques qui se posent.
Docteur Alberini, en plus de vos activités de recherche et d'enseignement à l'UNIGE, vous êtes également associé au cabinet d'avocats Sigma Legal. Quelles sont les nouvelles thématiques que vous avez vues émerger dans la pratique ces dernières années ?
Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on voit la pratique qui évolue. En réalité, les technologies saisissent pratiquement tous les pans d'activité d'une entreprise, et notamment d'une entreprise qui est active dans le secteur bancaire et financier. Ce qui signifie en réalité que des nouvelles questions juridiques vont venir se poser en lien avec chacune de ces activités qui étaient précédemment traditionnelles, et nouvelles questions juridiques avec parfois un nouveau cadre juridique qui évolue. Et donc, ça oblige le praticien du droit, d'une part, à se familiariser avec ces technologies et d'autre part, à revoir la manière dont il fournit son conseil juridique. Finalement, un élément qui peut paraître tout simple, tout bête, c'est vraiment la question des contrats. On voit les contrats, notamment dans la pratique bancaire et financière, qui évoluent justement pour intégrer tous les nouveaux risques liés aux nouvelles technologies et qui dit risque, évidemment, dit question de responsabilité également.
Aline Darbelay, on entend régulièrement parler de problèmes liés à la protection des données, souvent dans le cadre de la captation de ces données par des intérêts commerciaux. Cependant, pour l'utilisateur ou l'utilisatrice Internet lambda, ceci paraît souvent abstrait et ne revient finalement qu'à cliquer de manière un peu mécanique sur un bouton pour donner son consentement lors d'une visite d'un site web. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il s'agit d'un enjeu majeur de notre ère numérique et particulièrement dans le secteur bancaire et financier?
Avec les données personnelles, c'est vrai qu'il y a des intérêts financiers énormes et donc de plus en plus de données sont générées à une ère où finalement on confie pratiquement tout à des moteurs de recherche tels que Google ou des réseaux sociaux éventuellement tels que Facebook. Donc le modèle d'affaires des plateformes digitales repose vraiment sur la monétisation de nos données et de la valeur de nos données. Quand elle les récolte de manière massive, cela permet notamment de cibler la publicité et de générer des revenus énormes pour les géants de la technologie qui ont maintenant donc les plus grandes capitalisations boursières au monde pour certains des géants de la technologie. Et pour un autre secteur, les banques qui ont un tout autre modèle d'affaires, elles ont toujours travaillé avec des données sensibles et d'ailleurs elles ont étaient conscientes depuis le début de la protection de la sphère privée de leurs clients. Mais c'est vrai que néanmoins, on sait que le secret bancaire a été affaibli durant les dernières années considérablement. Et aujourd'hui, donc, il est tout à fait naturel de s'intéresser à la protection des données. Les banques traitant des données sensibles, elles sont évidemment sujettes au droit de la protection des données.
En plus de vos enseignements à l'Université de Genève, vous faites également de la recherche sur ces thématiques. Comment est-ce que vous utilisez vos recherches dans le cadre de vos enseignements, par exemple dans un programme de formation continue tel que le CAS Digital Finance Law, donc le certificat de formation continue en droit de la finance numérique?
Excellente question. Donc, dans le cadre de la recherche, je traite le sujet de façon académique. Et dans le cadre du CAS Digital Finance Law, on a une orientation vraiment tournée vers la pratique. Il y a des synergies entre les deux dans le sens où on a des thématiques qui sont similaires, qui sont traitées de manière différente, mais l'intérêt scientifique est important aussi bien en fait que l'intérêt pour les praticiens et les praticiennes. Donc je regarde ces synergies et aussi ce que je conserve beaucoup de mes recherches et de l'approche que j'ai dans le matière des recherches, c'est une approche qui est plutôt critique. Et cette approche critique que j'affectionne particulièrement, je n'ai pas toujours l'optimisme dont la branche fait preuve parfois dans un secteur qui est en pleine effervescence.
Docteur Alberini, quel est le public cible de cette formation et comment avez-vous identifié le besoin de formation sur le marché ?
Alors, le public cible est composé essentiellement de personnes qui travaillent au sein d'établissements bancaires et financiers, qui peuvent avoir différentes fonctions. Il y a évidemment toutes les personnes qui travaillent dans les services juridiques, mais on peut également avoir d'autres personnes, des gestionnaires de projets, par exemple. La question qu'on s'est posée, l'identification de ce public cible, ont été relativement simples. On a des échos depuis un certain nombre d'années venant du secteur bancaire et financier. Nous disons il y a un besoin de formation pour nos collaborateurs dans ces domaines qui évoluent beaucoup et qui sont remplis d'incertitudes. Donc, on a vraiment eu une sorte d'appel du marché, en réalité, pour nous dire on a ce besoin qui est clairement présent et identifié.
Aline Darbelé, et au niveau des compétences techniques et des compétences transverses que vise la formation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement ?
En effet, l'acquisition de compétences techniques et transverses, c'est vraiment pertinent pour le programme. En matière de compétences techniques, on a introduit diverses technologies, donc technologies comme la blockchain, l'intelligence artificielle, dans l'esprit de pouvoir permettre aux participantes et aux participants de comprendre de quoi on parle. Et ensuite, on approfondit dans le programme plutôt les aspects juridiques, et c'est là qu'on va vers l'acquisition de véritables compétences transversales du point de vue des domaines du droit concernés. On analyse tous les sujets sous différents angles. Donc, ça peut être aussi bien des aspects de réglementation financière, des aspects de protection des données, des aspects de contrat ou des aspects de propriété intellectuelle, de concurrence, à savoir divers domaines juridiques. Et le propre de la technologie, c'est vraiment qu'on a un grand sujet qui touche finalement tous les domaines du droit.
Et du coup, comment est-ce que vous amenez les participants et les participantes à atteindre ces compétences visées ? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du scénario pédagogique, du déroulé du programme ?
Dans le CAS Digital Finance Law, on a 4 modules et on a 4 jours par module, des vendredis après-midi, des samedis matin, qui sont des séances live dans le cadre desquelles on a des cas pratiques avec de l'interactivité avec les participants. Et on compte pour cela sur environ une cinquantaine d'intervenantes et d'intervenants avec des profils variés qui proviennent de divers secteurs, aussi bien du secteur académique que de la pratique, et aussi bien du secteur des banques que des études d'avocats d'affaires, que des autorités, aussi bien que en particulier des assurances également.
Donc, à noter en complément de ce qu'indique la professeure Darbelé, que nous disposons d'un cas donc transversal dans le cadre de ce CAS. Il s'agit donc d'un cas complexe, très complexe, qui se construit au travers des 4 modules et qui porte du coup sur une série de questions assez différentes les unes des autres, mais qui sont en réalité connectées, notamment si on y réfléchit dans une perspective pratique. Et puis c'est là l'un des grands apports, je pense, de ce CAS, évidemment en termes théoriques, mais aussi pour les praticiens, c'est vraiment d'acquérir cette vision complète et de scénarios qui sont complexes, et d'éviter de segmenter des questions qui, en réalité, peuvent se regrouper en pratique.
Et justement, docteur Alberini, vous parlez des praticiens. Dans un article publié dans le cadre de ce CAS, les questions de la création de nouveaux métiers, justement liées à cette rencontre entre finance et numérique, à quoi ressembleront ces nouveaux métiers ou quels sont déjà ces nouveaux métiers ?
Alors effectivement, il y a déjà des nouveaux métiers qui sont apparus. L'exemple le plus classique qui me vient à l'esprit, c'est celui de data scientist. Donc vraiment, ces personnes spécialisées dans l'analyse de données et de résultats que l'on peut tirer de ces données, des métiers qui existent et qui commencent à être recherchés, y compris par les établissements bancaires et financiers. Ensuite, on va vers, sans aller jusqu'à des nouveaux métiers au sens strict, on voit une évolution des métiers, notamment des gestionnaires de projets. On parlait tout à l'heure justement de ces compétences transversales, des gestionnaires de projets qui sont capables vraiment d'appréhender des situations complexes et de visualiser les différents problèmes ou les différents risques plus précisément que ces situations peuvent présenter, à savoir à la fois des questions évidemment techniques, mais également des aspects juridiques, des aspects d'impact plus généraux sur l'établissement. Puis enfin, pour parler des juristes, comme on le disait tout à l'heure aussi, le métier de juriste évolue parce que le juriste, dans ce genre de situation, doit avoir une meilleure compréhension des technologies en présence.
Vous avez donc des participants qui vont se diriger vers ces nouveaux métiers. Une question qui est centrale en formation continue universitaire, c'est celle de l'impact d'une formation. C'est une question qui revient souvent. Et on parle également du transfert des compétences acquises vers la pratique professionnelle. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont déjà dans le domaine et qui souhaitent obtenir de nouvelles compétences. Comment est-ce que vous allez savoir que vos participants seront mieux à faire certaines choses dans leur pratique après le CAS?
Alors, le CAS est vraiment pensé, et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui la professeure Barbelin et moi-même, est vraiment pensé dans cette double dimension, à la fois vraiment d'une conception théorique très très solide avec des personnes qui viennent de l'académie qui sont à la pointe de ces sujets et des praticiens qui sont plus proches naturellement des questions qui se posent en pratique. C'est la réunion de ces deux compétences qui est, dans mon sens, vraiment une des plus-values du CAS, ce qui permet en général effectivement d'apporter ces connaissances aux praticiens et de s'assurer qu'effectivement elles leur seront utiles en pratique. On a aussi, dans le cadre du CAS, on investit du temps à échanger avec les participants pour être sûr que les thèmes qu'on leur propose, les questions qui sont abordées répondent à leurs questions pratiques. L'écho que l'on a à ce jour au terme des deux premiers modules est vraiment tout à fait positif à cet égard.
Et d'ailleurs, en termes de réunion de différents intérêts, on a aussi des personnes qui proviennent d'horizons différents, qui peuvent être parfois du secteur plutôt des technologies ou parfois plutôt des juristes. Et l'important dans ce monde, c'est de pouvoir créer des ponts entre droit, technologie et finance et de permettre à ces praticiennes et praticiens de communiquer entre eux, entre divers domaines. Donc, de fait, pour nous, on aura accompli quelque chose si, au terme de la formation, les juristes seront capables de comprendre le vocabulaire IT dans une certaine mesure, et les personnes de l'IT qui suivent l'affirmation seront aussi capables de communiquer avec des juristes. C'est aussi un des grands objectifs de notre formation.
Vous avez parlé des deux premiers modules. J'imagine que, comme beaucoup de formations, vos enseignements et votre CAS ont été affectés par la pandémie de la COVID-19. Comment est-ce que vous avez géré cette situation ?
Oui, effectivement, on a lancé le CAS en avril 2020, donc on a dû bousculer notre enseignement en ligne, au pied levé. On a été vraiment pris de court comme tout le monde à ce moment-là, on ne s'y attendait pas vraiment, mais disons qu'on a été forcé de se dire que si le CAS digital n'est pas capable de relever le défi de l'ère du digital, à savoir de bousculer la formation en ligne, qui d'autre peut le faire. Donc, on a mis le pied à l'étrier et on a vraiment repensé les méthodes pédagogiques pour s'assurer que nos participantes et nos participants soient satisfaits avec l'enseignement à distance. Ça demande en réalité plus de travail pour nous. On a effectué des pré-enregistrements des parties ex cathedra, des parties théoriques, ainsi que parfois des bases techniques pour permettre aux participants d'avoir le prérequis, avoir des connaissances de base assez solides, ce qui nous a permis, dans le cadre des séances live qui ont été tenues via une plateforme en ligne, les vendredis après-midi et les samedis matins, de finalement être vraiment dans l'interactivité, d'avoir des cas pratiques et de pouvoir tout de suite passer dans le vif du sujet et d'avoir également d'utiliser les outils technologiques pour répartir les étudiants en groupes et faire en sorte de créer une atmosphère conviviale entre les étudiants malgré le contexte un petit peu particulier dans lequel nous avons dû lancer le CAS digital.
Adrien Alberini, étant donné que ce domaine est en constante évolution, comment est-ce que vous faites pour gérer les attentes des participants et donc des professionnels qui sont intéressés par ce programme, qui sont souvent très exigeants quant à la pertinence et à l'actualité des contenus dont traite une formation ?
Alors effectivement, ça, je dirais que c'est principalement la responsabilité d'Aline Darbelay et la mienne, à savoir de rester vraiment toujours à la pointe des questions qui se posent dans ce domaine, étant toutefois évidemment précisé qu'on est assisté dans ce cadre par une direction plus générale du CAS qui est également composée de personnes très compétentes et je dirais encore surtout par un conseil scientifique qui est lui aussi composé de personnes extrêmement compétentes. L'idée, c'est vraiment d'échanger pour être sûr que l'on reste à l'avant-garde des questions qui se posent, de manière en définitive à pouvoir proposer un programme qui est totalement satisfaisant pour les participants.
Professeur Darbelay, peut-être une petite question sur le futur, même s'il est actuellement difficile de se projeter avec le contexte actuel. Comment est-ce que vous voyez évoluer ce programme ?
Nous voyons pour l'instant évoluer ce programme sur cette même voie. Nous allons poursuivre sur la même voie, puisque, à mon avis, il ne faut pas changer ce qui fonctionne bien. Donc, on va poursuivre sur cette voie. On peut être déjà fiers d'avoir réussi à lancer le programme dans un contexte aussi particulier. Et on va également tirer parti des méthodes pédagogiques qu'on a expérimentées dans l'urgence. Donc, le fait d'avoir préenregistré des parties théoriques et ensuite avoir un enseignement qui est beaucoup plus interactif est une méthode pédagogique que nous voulons conserver. Nous allons avoir des séances live qui comportent de plus en plus de cas pratiques. Également, pour pouvoir comprendre et aborder, appréhender une matière qui est complexe, on pense que les cas pratiques est vraiment ce qui est idéal, qui permet vraiment d'illustrer une matière qui est vraiment complexe et technique. Et maintenant, on va aussi ajouter, du point de vue de la convergence entre l'utilisation des technologies par les banques et les assurances, on va aussi ajouter quelques contenus qui ont trait un peu plus au domaine des assurances. On a le domaine des banques, mais le secteur financier de manière générale nous intéresse. Donc, on ajoutera quelques aspects qui couvrent également le domaine des assurances. Ce qu'on fait déjà en ce moment, mais on va développer un peu plus ces aspects-là.
Voilà, nous arrivons à la conclusion de notre entretien et nous finissons toujours par deux questions que nous appelons les recommandations des experts. Donc, pour conclure cette conversation, est-ce que vous avez l'un et l'autre des conseils aux personnes, aux étudiants et étudiantes, aux professionnels qui seraient intéressés de se former et ou de travailler dans le domaine du droit de la finance numérique ?
Donc, j'ai envie de leur dire, faites preuve de curiosité intellectuelle et dans ce domaine, gardez les pieds sur terre et la tête sur les épaules.
Pour ma part, peut-être le conseil, c'est, et on en a beaucoup parlé durant cet entretien, c'est que c'est un secteur qui évolue très vite, les technologies évoluent vite. Et si on veut se lancer dans ce domaine, il faut se lancer assez rapidement. On voit déjà que toute une série d'acteurs qui ont suivi les premières évolutions du domaine ont un avantage, évidemment. Ils ont tous cet historique qu'ils maîtrisent maintenant. Je ne pense pas qu'il faut se dire « Ah, je verrai dans 5 ou 7 ans si ça m'intéresse, si je veux m'y mettre ». C'est évidemment possible, mais le momentum, il est maintenant et c'est encore une fois un domaine qui évolue très vite.
Et pour finir, la question que nous posons à nos invités à la fin de chaque épisode, avez-vous des suggestions de lecture pour aller plus loin ou des lectures qui vous ont particulièrement marqué ? Peut-être une recommandation chacun ?
Pour ma part, une recommandation d'un livre qui m'a marqué, qui est paru en 2019, c'est le livre de Roger McNamee, Tucked, Waking Up to the Facebook Catastrophe, qui détaille vraiment le modèle d'affaires des géants de la technologie aujourd'hui.
Pour ma part, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est The Copyright Highway, qui est un livre du professeur Goldstein de l'Université de Stanford, qui retrace en réalité toute l'évolution des technologies en lien avec l'évolution du droit d'auteur et l'évolution de la société de manière plus générale, et qui nous permet de comprendre en partie finalement dans quelle mesure le droit a influencé et a été influencé par l'émergence de nouvelles technologies. C'est intéressant parce qu'il commence avec Gutenberg il y a pratiquement 500 ans pour arriver au monde ultra digitalisé que l'on connaît aujourd'hui.
Nous ajouterons donc ces recommandations dans les notes qui accompagnent l'épisode. Professeur Aline Darbelé, docteur Adrien Alberini, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à contribuer à ce troisième épisode de Lifelong Learning à Tunis.
Merci à vous.
Merci de nous avoir reçus. Podcast Unige.